Bonjour à tous.
Bonjour.
Nous savons que dans la vie de Thérèse, les images sont très importantes. Je veux citer simplement deux exemples. Dans la maison familiale, il y avait un grand cadre qui représentait la rencontre, qui représente la rencontre de Jésus avec la Samaritaine au puits de Jacob. Un grand tableau qu'on peut voir d'ailleurs, je crois, encore aujourd'hui au monastère de l'Incarnation, dans le musée. Il y a aussi le Christ tout couvert de plaies en 1554 qui a contribué à sa seconde conversion. Et puis, il y a toutes les images qui ont jalonné la vie de Thérèse. Par exemple, dans un ermitage à Saint-Joseph, il y a...
Je vais parler de tout ça, François Régis.
Oui. Oui. Il y a un Christ aux beaux yeux. En tout cas, la question qui se pose, c'est les images, le rôle des images. Parce que d'un côté, dans la vie spirituelle, elles sont une aide. D'un autre côté, il semble qu'elles encombrent et que l'imagination tourne comme une folle. Alors, je pense que le Père Emmanuel va nous aider à y voir clair, c'est le cas de dire, puisqu'il n'attend de nous qu'un regard. Donc nous l'écoutons avec intérêt.
Alors, merci François-Régis. J'ai changé un petit peu le titre de ma conférence, vous voyez, avec quelques images. C'est un petit peu obligé, étant donné le sujet. J'étais obligé de donner libre cours à ma tendance. J'aime bien illustrer avec quelques images et surtout quelques textes. Il n'attend de vous qu'un regard, le rôle des images et de l'image chez Sainte Thérèse d'Avila. En fait, c'est un sujet christologique. Et en parlant des images, de leur rôle dans la vie, dans l'enseignement de la Madre, forcément, on en vient à parler de l'image par excellence, de celui dont saint Paul dit « il est l'image du Dieu invisible ». Le mot grec, c'est « eikon ». Il est l'icône du Dieu invisible. Alors le terrain que nous allons parcourir, en lisant quelques textes, en regardant quelques images, c'est celui de la vie de Thérèse, celui d'une existence humaine qui est traversée par un désir inouï. Fais-moi de grâce voir ta gloire. Le cri de Moïse, c'est le chapitre 33 du livre de l'Exode. Fais-moi de grâce voir ta gloire. C'est celui qui traverse la vie de Thérèse, qui traverse toute existence humaine. Un refrain qu'on retrouve souvent dans les psaumes, « C'est ta face, Seigneur, que je cherche, ne me cache pas ta face. » Et la réponse divine est claire, « Tu ne peux voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Pourtant, ce désir de voir Dieu a animé l'existence de Thérèse. Depuis sa tendre enfance, si on connaît bien le récit de l'escapade, elle entraîne son frère aîné Rodrigo, parce qu'ils ont lu les vies des martyrs et qu'ils désirent mourir pour voir Dieu. Thérèse expliquera à ses parents, « Je suis parti car je veux voir Dieu et que pour voir Dieu, il faut mourir. » Et puis on la retrouve sur son lit de mort. Et l'une de ses dernières paroles, vous la connaissez aussi, alors qu'elle va passer de cette mauvaise nuit dans une mauvaise auberge, ou bien comme j'ai découvert cette expression hier, de la farce si mal agencée de cette vie, la mauvaise blague de cette vie, aux demeures éternelles, elle dit « L'heure est à présent venue, mon époux, que nous nous voyions. » Aujourd'hui, Thérèse contemple la face de Dieu, mais son chemin a été un chemin de foi. Son chemin a été le Christ, et c'est sur ce chemin que nous marchons nous-mêmes. Le désir de voir Dieu a animé Thérèse, et sa marche a été comme jalonnée par des images de l'image qu'est le Christ. Et sainte Thérèse nous prend par la main pour nous inviter à marcher à sa suite. Son enseignement, nous le savons maintenant, il est inséparable de son expérience, une expérience personnelle qui est dans l'Église. Alors donc la question à laquelle je vais essayer de répondre, quel est le rôle des images au pluriel et de l'image qu'est le Christ dans la vie, dans l'enseignement de Thérèse d'Avila? Trois parties. D'abord, nous allons parcourir à nouveau, en quelques étapes, la vie de Thérèse, son chemin. quelques jalons sur cet itinéraire qui est orienté vers le désir de voir. Et puis ensuite, des conseils de la Madré aux pèlerins que nous sommes. Et puis enfin, essayer non pas de montrer, mais de souligner la pertinence des conseils donnés par Thérèse en les plaçant dans d'autres univers. Et je ferai appel brièvement à saint Thomas d'Aquin, au bienheureux John Henry Newman, au vénérable Marie-Eugène et puis au bienheureux Paul VI. Ça fait beaucoup, mais ça sera un peu comme des ouvertures pour mettre en relief la pertinence des conseils de Thérèse. Alors d'abord, quelques jalons sur le chemin de Thérèse, donc qui est orienté, dynamisé par ce désir « Je veux voir Dieu ». Et nous n'allons pas commencer avec des images, mais avec des livres. Parce que Thérèse s'est servie de ses yeux pour lire. Et il s'agit pour elle de lire, non pas simplement afin de se distraire ou de s'instruire, mais pour vivre. Alors j'ai choisi une expérience fondatrice. Vous voyez les étapes, on va d'abord regarder le lien vivant, existentiel de Thérèse et de la lecture, de l'ouverture des livres. Ensuite, son lien avec le livre par excellence, l'Écriture sainte. Et puis enfin, la façon dont elle a pu tourner les pages d'un livre vivant qui est le Christ lui-même. Alors, Thérèse et les livres est d'abord une expérience fondatrice, un souvenir d'enfance qui permet de camper la façon dont Thérèse lit. C'est au début du récit de sa vie. Elle raconte comment, avec Rodrigo, son frère préféré, elle lisait des livres de saints. Notre étonnement était extrême quand nous lisions dans nos livres que les tourments et la gloire devaient durer toujours. Il nous arrivait de passer de longs moments à parler de cela et nous aimions répéter souvent « pour toujours, 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 para siempre ». Et quand j'avais ainsi redit ces mots un certain nombre de fois, Dieu me faisait la grâce, tout enfant que j'étais, d'imprimer en moi le chemin de la vérité. Une première occurrence du verbe imprimer que Thérèse aime beaucoup. Je n'ai pas eu le temps de chercher, mais je suis sûr qu'il y a eu des études faites sur la métaphore de l'imprimerie dans les écrits de Thérèse. Hein, on est un siècle après le début du déploiement de l'imprimerie, et Thérèse aime beaucoup cette image-là. Voyez comment Thérèse, petite fille, fait l'expérience fondatrice de la fécondité de la lecture. Le livre est assimilé. On a l'impression qu'il est manduqué, qu'il est mâché. On répète, elle répète ce qu'elle lit. Et alors il s'imprime dans sa mémoire d'une façon vivante. Et finalement, il ouvre un chemin de vie. Ce qui s'imprime, c'est un chemin sur lequel on peut avancer, le chemin de la vérité. Lire pour vivre. Voilà comment Thérèse est lectrice. Et elle ne lira pas autrement l'Écriture sainte, on va le voir. Elle sait bien, évidemment, que la lecture ne remplace pas l'expérience. Mais la lecture est faite pour éclairer l'expérience, et on pourrait même dire pour la permettre, pour la stimuler. Alors Thérèse a beaucoup aimé la lecture. Et on sait qu'il y avait des livres dans la maison familiale, que Thérèse a largement profité de ses rayons de bibliothèque. À son grand regret, elle se laissera captiver par les romans de chevalerie que lisait sa mère. Des romans qui vont la dissiper parce qu'elle a une imagination, une sensibilité extraordinairement riche. Heureusement, son sens très vif du vrai la conduira vers de bons livres. Et elle dit ceci bientôt dans le récit de sa vie. « J'avais pris goût aux bons livres. Ils me donnèrent la vie. » Et Thérèse a fait tout au long de sa vie, et spécialement dans les années de sa jeunesse, l'expérience de l'importance vitale de la lecture spirituelle. Alors on pourrait parcourir son autobiographie en relevant les grands moments, les grandes lectures J'en ai trouvé quelques-unes au moins. Dans les lettres de Saint Jérôme, elle trouve le courage de parler de sa vocation à son père. Donc c'est la suite de cette déclaration. J'avais pris goût au bon livre, ils me donnèrent la vie. Je lisais les épîtres de Saint Jérôme et j'épuisais tant de courage que je me décidais à m'ouvrir à mon père. Et puis, un peu plus tard, un autre livre, c'est le troisième abécédaire de Francisco de Osuna, à l'occasion d'un séjour chez son oncle Pierre. Et voici ce qu'elle dit. « Ce livre me fit donc grand plaisir, et je me résolus de suivre de toutes mes forces la voie qu'il m'ouvrait. » Vous voyez, à chaque fois, il y a un chemin qui s'ouvre. « Comme j'avais déjà reçu de Dieu le don des larmes, et que j'aimais la lecture, je commençais à m'engager enfin dans le chemin où mon livre me servait de guide. » Et Thérèse, la Mater Spiritualium, la mère des spirituels, apprend l'art de l'oraison en lisant. Et puis un autre grand moment, bien sûr, c'est la lecture des Confessions de saint Augustin. C'est au chapitre 9 de sa vie. Et c'est assez étonnant parce que elle manifeste dans son récit comment la lecture du livre, finalement, lui donne de vivre ce que Augustin lui-même a expérimenté. À peine avais-je commencé la lecture des Confessions de saint Augustin qu'il me sembla me retrouver moi-même. Je me mis à prier instamment ce glorieux saint. Arrivé à sa conversion, à cette voix qu'il entendit dans le jardin, le Seigneur, je crois, la fit résonner à mes oreilles. Si vive était l'émotion de mon cœur. Vous voyez, il y a comme un jeu de miroir qu'on va retrouver avec l'Écriture sainte. On voit donc comment la lecture est l'occasion d'une expérience qui permet de marcher, d'avancer sur les chemins de Dieu. Et venons-en au bon livre par excellence, le livre de l'Écriture sainte. Alors là, il y a des convictions très fortes chez Sainte Thérèse, c'est que la science acquise par la fréquentation des Saintes Écritures est vitale, nécessaire pour avancer dans les voies de Dieu. C'est vraiment pour Thérèse une conviction, on pourrait dire, absolue. Un petit exemple de la façon dont elle exprime cette conviction. Une fois appuyés sur les vérités de la Sainte Écriture, nous sommes sûrs de marcher droit. Et puis elle continue en fait, « Quant aux dévotions niaises, Dieu nous en délivre. » Vous voyez, la parole de Dieu est un chemin sûr qui évite de s'égarer. Comprendre le sens de l'Écriture sainte de façon vivante, existentielle, n'est pas affaire privée. Même si ça se déploie dans l'expérience personnelle, c'est dans l'Église. Et il y a une parole du Christ rapporté par Thérèse et déjà entendu hier après-midi, qui en témoigne de cette dimension ecclésiale avec une force singulière. Tous les maux qui arrivent dans le monde viennent de ce que l'on n'a pas une parfaite connaissance des vérités de l'Écriture. Et cependant, pas un point sur un i ne passera. No faltará una tilde de Elia. Vous voyez le lien entre la juste interprétation de l'Écriture et l'histoire. La saisie du sens de l'Écriture se réalise dans un double mouvement. Je reconnais dans l'Écriture ce que je suis en train de vivre. Et l'Écriture m'entraîne à vivre davantage, à aller de l'avant. Donc c'est cette dialectique-là, un jeu de va-et-vient entre l'expérience et le sens de l'Écriture. Thérèse utilise elle-même l'expression du miroir. C'est dans les septièmes demeures, au chapitre 2, elle parle de la Bible comme du miroir placé devant nos yeux, où notre image se trouve reproduite. Alors dans le premier mouvement, l'Écriture vient éclairer ce que je suis en train de vivre. Et grâce à cette, on pourrait dire, connivence entre l'Écriture et mon essence personnelle, je découvre le sens du verset biblique. Alors là, il y a plein d'exemples possibles, en particulier grâce aux psaumes. Et souvent, Thérèse cite les psaumes, qu'elle connaît par cœur grâce à la liturgie, en disant, mais c'est exactement ce que je suis en train de vivre. Un petit exemple, si vous voulez, du psaume 101, où le psalmiste dit, « Je veille la nuit comme un oiseau solitaire sur un toit. » En d'autres termes, vous voici comme un pigeon isolé, et ça dure. Et Thérèse se dit comme reléguée au fond d'un désert. Et puis elle commente, après avoir cité ce verset du psaume, « Peut-être le prophète royal, David, lorsqu'il parlait ainsi, se trouvait-il dans cette même solitude, mais comme il était saint, Dieu sans doute la lui faisait ressentir à un degré plus intense. Quand je l'éprouve moi-même, ce verset se présente à mon esprit et je crois le voir réalisé en moi. » Il y a d'autres exemples, il y a la question du psaume 41, « Où est-il ton Dieu dans la nuit ?» Et puis il y a aussi la prière où le psalmiste demande les ailes de la colombe. Qui me donnera des ailes de colombe? Je volerai en lieu sûr. Vous voyez donc tous ces versets qui viennent éclairer le chemin de Thérèse. Il s'agit finalement de réaliser le sens de l'écriture. Vous voyez, au sens moderne du mot où on dit « Ah, ça y est, je réalise maintenant ». Non pas dans le sens de faire, mais de comprendre intimement. Alors, au niveau pratique, les historiens sont d'accord pour reconnaître que Thérèse n'a jamais pu avoir en main une Bible intégrale, du moins en castillan. Et donc, son accès à l'écriture, on pourrait dire, c'est grâce à l'Église. C'est grâce à la célébration de la liturgie, à la liturgie des heures en particulier, et puis grâce aux auteurs spirituels, aux citations qu'ils font eux-mêmes de l'écriture. Et c'est intéressant de voir comment Thérèse associe facilement l'écriture et le témoignage des saints. L'écriture lui arrive portée par la tradition. Je prends un exemple, une autre fois où elle fait recours aux confessions de saint Augustin. C'est le chapitre 13 de sa vie. « Pendant quelque temps, j'ai eu sans cesse présente à l'esprit cette parole de saint Paul, « Je peux tout en celui qui me rend fort. De moi-même, je le comprenais, je ne pouvais rien. » Aussi, cette pensée m'était-elle d'un grand secours. J'en dis autant de la parole de saint Augustin. « Donne-moi, Seigneur, ce que tu me commandes et commande-moi ce que tu voudras. » Vous voyez, le livre éclaire l'expérience et il s'éclaire grâce à l'expérience. Et il donne à cette expérience de se déployer, d'aller de l'avant. Alors c'est vrai spécialement, évidemment, de tous les récits de l'Évangile. Et certainement, c'est la part la plus précieuse des Écritures pour nous, pour Thérèse. Il y a également le Cantique des Cantiques, qui a une grande importance, et on comprend pourquoi. Mais parmi tous les livres, la préférence va à l'Évangile. « Quant à moi, dit Thérèse, j'ai toujours extrêmement goûté les paroles de l'Évangile. Elles recueillaient mieux mon âme que les livres les plus savamment composés. » Ça, c'est dans le livre du Chemin, au chapitre 21. Et Thérèse, donc, s'est nourrie des pages de l'Évangile, gardant sous son regard intérieur les mystères de la vie de Jésus. Et par-dessus tout, bien sûr, son mystère pascal. Alors, j'en profite pour faire référence à une très belle thèse du père Angel Moreno Sancho, « La imagen de Cristo en la contemplación de Santa Teresa de Jesús ». Et au chapitre 2, il fait comme le catalogue des mystères de la vie de Jésus contemplés par Thérèse. C'est très impressionnant de voir comment Thérèse a cheminé vraiment avec Jésus, contemplé dans l'Évangile. Hélas, vous savez ce qui se passe, en 1559, le grand inquisiteur d'Espagne croit devoir interdire la lecture de la plupart des livres spirituels écrits en espagnol pour arrêter la vague montante de l'illuminisme. C'est une mesure radicale qui désole Thérèse. Elle s'en plaint au Seigneur. C'est au chapitre 26 de la vie. À l'époque où la lecture d'un bon nombre de livres écrits en castillan se trouva interdite, j'en eus beaucoup de peine. car j'en lisais plusieurs avec plaisir, et désormais je m'en voyais privé, la lecture n'en étant plus permise qu'en latin. Ah, quand même, mais bon. Notre Seigneur me dit, ne t'afflige pas, je te donnerai un livre vivant. Parole que la sainte ne comprend pas d'abord. Le Seigneur, lui témoignant le plus grand amour en commençant à l'enseigner de bien des manières, Thérèse va en fait être gratifiée d'innombrables visions. Et donc elle pourra nommer le livre vivant, c'est Jésus lui-même. Sa majesté a été pour moi le livre véritable où j'ai découvert les vérités. Béni soit ce livre. Étonnant comme parole de louange. Béni soit ce livre. Il imprime, imprimir, si vivement dans l'âme ce qu'elle doit connaître et pratiquer. En fait, c'est dans le texte espagnol ce qu'elle doit lire et faire, qu'il lui est impossible de l'oublier. Donc vous voyez, là maintenant c'est étonnant, c'est le livre, on a l'impression qu'il devient, le livre c'est l'âme elle-même, c'est la personne elle-même. Le lecteur devient dans sa mémoire vivante comme un livre. Et ce qui est imprimé l'entraîne à l'action. Et ce que Thérèse va lire en Jésus, ce qui s'imprime en elle, on peut dire c'est la gloire et la croix. Une passion de gloire de Jésus. Alors avant d'entrer dans quelques visions de Thérèse, je reviens un peu en arrière. Le livre vivant dont elle parle, ce sont vraiment toutes les visions dont elle va être gratifiée. Mais j'aimerais faire un petit retour en arrière chronologiquement pour parler quand même de quelques images concrètes, matérielles, qui ont marqué le chemin de Thérèse. Des représentations artistiques. Thérèse qui se dit « amiga de imágenes », amie des images. J'aimais tant les images. Et nous savons qu'à l'époque de Thérèse, avec la Réforme, il y a un nouvel iconoclasme, donc du côté protestant. Et Thérèse en entend parler, spécialement en France et aux Pays-Bas. Il y a des faits de vandalisme dans les églises, des statues qui sont brisées, piétinées, de même pour les reliques. Et évidemment, elle en est très, très peinée, blessée. C'est le Concile de Trente qui va donner la réponse du magistère. Et l'Esprit-Saint, en même temps, parle à travers la vie de Thérèse, en montrant l'importance de l'image et sa juste place comme moyen de grâce, littéralement comme média, comme médiation, pour avoir accès à l'image qu'est le Christ. Alors, quelques images, justement, celle qu'évoquait tout à l'heure le père François Régis, ce tableau familial, un tableau anonyme qui était donc dans la maison familiale et que Thérèse a beaucoup aimé, qu'elle a ensuite emmené au monastère avec elle, la rencontre de Jésus de la Samaritaine. Elle en parle au chapitre 30 de l'autobiographie et combien elle s'est identifiée à cette femme de Samarie. Bien souvent, je suppliais Dieu de me donner de cette eau. Et toujours, j'avais auprès de moi une image représentant notre Seigneur près du puits de Jacob, avec ces mots, « Domine damici hanc aquam »,« Seigneur, donne-moi cette eau ». C'est intéressant de lier l'image et puis le texte, la parole, sont en fait inséparables. Une autre image dont nous avons déjà parlé, et on sait aujourd'hui que ce n'est pas cette petite statue, mais probablement plutôt un tableau, puisque d'après les historiens d'art, cette statue en fait est probablement postérieure à Thérèse. Mais un tableau, dans le texte espagnol, c'est imagen qui est utilisé. Donc ce n'est pas statue. Dans la traduction du serf, c'est statue, mais en fait c'est imagen. Donc une image, donc la possibilité d'avoir en fait un tableau. En tout cas, c'est un Christ qui est très blessé. Era un Cristo muy llagado. Et Thérèse en est, on pourrait dire, elle-même blessée. Vous voyez, à nouveau, ce jeu de va-et-vient entre l'image et puis le cœur, l'intériorité spirituelle de Thérèse. Et combien cette rencontre avec le Christ, grâce à la médiation d'une représentation artistique, va être un tournant décisif sur son chemin de conversion. C'est un Christ tout couvert de plaies, un Christo muliagado, et si touchant qu'à le considérer, je me sentis profondément bouleversé, tant il peignait bien ce que notre Seigneur endura pour nous. Comme si Thérèse, à ce moment-là, réalise ce que saint Paul dit aux Galates, « Le Fils de Dieu m'a aimé et s'est livré pour moi. » En fait, l'expérience mystique de Thérèse va se déployer, s'approfondir, mais Thérèse gardera toujours une grande attention aux images extérieures. Et on peut relever l'un ou l'autre exemple, en particulier dans le chapitre 14 des Fondations. Il y a là deux images, l'une toute simple et l'autre qui est véritablement une œuvre d'art. Donc c'est le récit de la fondation du premier couvent des Carmes Deschaux à Duruelo, et puis ensuite du transfert du couvent à Mancera de Abajo. Et donc Thérèse évoque deux images. La première à Duruelo, qui était probablement l'œuvre du frère Jean de la Croix. Je ne sais pas si c'est ce dessin de Jean de la Croix, peut-être. On le connaît bien, ce dessin qui a inspiré bien plus tard Dali, Salvador Dali. Je cite le récit qu'elle en fait. Donc c'est Fondation, chapitre 14. « Je n'ai jamais oublié une petite croix de bois qui se trouvait au bénitier et à laquelle on avait collé une image de papier représentant notre Seigneur crucifié. Elle inspirait plus de dévotion que n'importe quelle œuvre d'art. » La deuxième image, dans ce même chapitre, c'est une véritable œuvre d'art qui se trouvait à Mancera et qui a donc presque, oui, je pense, qui a motivé le transfert du monastère en ce lieu. Il y avait un gentilhomme parmi les pénitents des frères Carmes qui a fait construire une église pour abriter un tableau de Notre-Dame, un tableau venant des Flandres. Alors, ce n'est pas ce tableau, mais enfin, en tout cas, celui-là, c'est bien une représentation de la Vierge qui date du début du XVIe siècle par un maître flamand. Et Thérèse dit, « C'est un grand retable. Je n'ai rien vu de plus beau dans ma vie. Et beaucoup de personnes sont de mon avis. » On voit dans ces deux faits que Thérèse prend soin de rapporter le rôle de l'image dans l'itinéraire spirituel de Thérèse. Un rôle qui se poursuit. Elle est aussi attentive à un simple dessin qu'à un magnifique tableau. Ajoutons une note intéressante contre ce qu'on peut appeler le misérabilisme. C'est dans la relation 30, et on voit comment Thérèse a échappé à une autre forme d'iconoclasme, une variante, on peut dire, une variante spirituelle. Elle démasque ce que l'on peut appeler donc le misérabilisme, qui consiste à refuser la médiation d'œuvres d'art sous prétexte de pauvreté. Je lis ce passage, donc c'est la relation 30. Ayant lu dans un livre, ça continue la lecture, qu'il y a de l'imperfection à user de belles images, je me décidai à ne plus en garder une de ce genre qui était dans la cellule que j'habitais. Avant cela, il me semblait déjà que la pauvreté oblige à n'en avoir que de papier. Mais depuis cette lecture que je fis l'un de ces jours, j'aurais voulu ne plus en avoir d'autres. Dans un moment où je ne pensais pas à cela, j'entendis ce qui suit. Cette mortification n'était pas bonne. De la pauvreté ou de la charité, laquelle était la meilleure? Puisque c'était l'amour qui l'emportait, je ne devais ni me priver, ni priver mes religieuses de ce qui pouvait l'exciter en nos âmes, exciter la charité. Le livre que j'avais lu n'entendait parler que des moulures et des enjolivements dont on enrichit les images, et non des images elles-mêmes. Ici, je ne sais pas si elle cherche à sauver la proposition. En tout cas, vous voyez comment c'est intéressant, hein, le principe de discernement, c'est l'amour. Enfin, pour compléter le tableau, si j'ose dire, et c'est intéressant de savoir cela, c'est que Thérèse, malgré la richesse de son imagination, de sa sensibilité, avait en fait beaucoup de mal, et même, on pourrait dire, une impuissance, à se former une image intérieure. Et elle le dit elle-même au chapitre 9 de sa vie. Tout ce qui était en mon pouvoir, c'était de penser à Jésus-Christ comme homme. Mais j'avais beau lire quelque chose de sa beauté ou voir ses images, je ne parvenais pas à me le représenter. D'où la nécessité pour elle d'avoir sous la main des images. C'est pour cela que j'aimais tant les images. Ah, qu'ils sont malheureux ceux qui se privent volontairement d'un si précieux avantage. Donc, elle ne rejette pas du tout l'activité de l'imagination qui consiste à peindre cette image intérieure. Elle constate pour elle-même son incapacité à le faire. Et du coup, le bienfait de l'image extérieure offerte par l'art. Elle dit cela dans le chapitre 22 de sa vie. « Nous pouvons porter son image, son portrait, aussi profondément gravé dans mon âme. » Là, c'est plus simplement « imprimir », mais c'est le verbe espagnol pour « graver ». Aussi profondément gravé que je l'aurais bien désiré, j'aurais voulu l'avoir sans cesse devant les yeux. Alors j'en viens maintenant au livre vivant proprement dit, qui est constitué des visions. Donc Thérèse, privée de la lecture des bons livres de spiritualité, reçoit un livre vivant qui n'est autre que Jésus lui-même, manifesté grâce à de multiples visions. Alors, c'est très intéressant, c'est étonnant vraiment, enfin en tout cas pour moi, je ne sais pas pour vous, toutes ces visions du Seigneur, la façon dont il se présente à elle, au début de façon progressive. Un jour que j'étais en oraison, c'est chapitre 28 de sa vie, c'est l'une des premières visions, il plut à ce divin maître de me montrer seulement ses mains. Leur beauté était si merveilleuse qu'il me serait impossible de la dépeindre. Et puis, peu à peu, ça va se déployer. Peu de jours après, je vis aussi son divin visage. Vous voyez, le Seigneur y va progressivement. Je ne pouvais comprendre pourquoi notre Seigneur se montrait ainsi à moi peu à peu, poco a poco. Ça, c'est comme un refrain dans tout l'enseignement de Thérèse. La pédagogie divine, c'est du peu à peu, poco a poco. En fait, il devait par la suite m'accorder la grâce de voir toute sa personne. On pourrait multiplier la lecture des descriptions que fait Thérèse. Ça, c'est un pauvre tableau d'un Christ ressuscité. Ça ne correspond pas du tout à la beauté du Christ qu'elle contemple. Un jour de fête de Saint-Paul, pendant que j'entendais la messe, la sainte humanité se fit voir à moi tout entière, telle qu'on la représente après la résurrection, dans une beauté et une majesté extraordinaire. Alors c'est intéressant parce que le contexte de l'art espagnol est quand même fortement marqué par la dimension de la souffrance. Thérèse n'occulte pas évidemment cette dimension-là. Elle l'a même rencontrée elle-même dans ce Christ muiliagado. Mais ce qui domine, c'est la gloire de la résurrection, toujours. La souffrance n'est jamais envisagée pour elle-même, mais toujours à travers la gloire de la résurrection. Par exemple, la couronne d'épines devient, je cite, « une couronne resplendissante qui correspondait probablement au cercle des blessures. » Alors évidemment, c'est un bonheur incroyable pour Thérèse de pouvoir contempler ainsi Jésus. Elle en est tirée hors d'elle-même et en même temps, elle dit que ce sont des visions qui la rendent libre. Il y a des beautés qui nous asservissent, et là, la beauté du Christ rend libre. Dès que j'eus contemplé l'ineffable beauté de notre Seigneur, il ne s'est plus trouvé de créature qui, comparée à lui, puisse me charmer et occuper mon esprit. Je n'ai qu'à reporter intérieurement mes yeux sur l'image que je porte imprimée dans mon âme pour me sentir parfaitement libre. Vous voyez, c'est comme un critère de la vraie beauté, celle qui nous rend libres. Et ainsi, le regard de Thérèse sur Jésus en sa passion, une passion glorieuse, c'est un regard qui est un regard de reconnaissance sans limite. Alors, pour mettre un tout petit peu d'ordre dans l'exubérance certaine des visions dont Thérèse est gratifiée, les premières pages du livre vivant, en fait, ne comporte aucune image. Ce sont des visions intellectuelles de l'humanité du Christ. Et les pages suivantes comportent des images. Ce sont des visions imaginaires. Alors, de quoi s'agit-il? On peut reprendre brièvement la distinction médiévale des visions surnaturelles. Il y a en premier la vision corporelle. Donc il y a une image extérieure qui est perçue par les yeux du corps. Aujourd'hui, on fête Notre-Dame de Lourdes, donc c'est les apparitions. Donc vision corporelle. Ensuite, la vision imaginaire qui comporte une image intérieure perçue par les yeux de l'âme, le sens spirituel de la vue. Et puis enfin, la vision intellectuelle, qui est une certaine perception de l'esprit, mais sans aucune image. C'est clair? Bon. Ce qui est clair, c'est que Thérèse affirme, en tout cas, n'avoir eu aucune vision corporelle, aucune apparition, mais seulement des visions intellectuelles et imaginaires. Et l'objet, c'était l'humanité du Christ, et puis plus tard, vision aussi de la Trinité. Avec le père Lethel, il y a un très bon article dans un colloque, il y a quelques années, Notre-Dame de Vie, où le père François-Marie Lethel étudie l'image du Christ chez Thérèse d'Avila. Il fait remarquer que l'expérience de Thérèse inverse l'ordre enseigné par les théologiens. La progression, ce serait d'aller de vision imaginaire aux visions intellectuelles. Et en fait, c'est l'inverse qui se passe dans l'expérience de Thérèse. Elle commence par des visions intellectuelles et ça continue avec des visions imaginaires. Le père Lethel dit, mais c'est en fait pédagogie divine pour montrer la centralité du mystère de l'incarnation. Où Jésus se donne à voir dans son humanité. En fait, c'est pas si facile de discerner, s'agit-il d'une vision imaginaire, intellectuelle, parfois les deux se surimpriment. Je termine par la plus importante de toutes les visions imaginaires, celle qui a réalisé le mariage spirituel. En novembre 1572, donc Thérèse a contemplé le ressuscité et reçu dans cette expérience-là la grâce du mariage spirituel. Je cite, c'est dans les septièmes demeures, le chapitre 2. La première fois que cette grâce du mariage spirituel est accordée à l'âme, notre Seigneur, dans une vision imaginaire, veut bien se montrer à elle en sa très sainte humanité, afin qu'elle connaisse et comprenne bien le don souverain qui lui est fait. Il se montre sans doute à d'autres sous une forme différente, mais à la personne dont je parle, c'est-à-dire à elle-même bien sûr, il apparut lorsqu'elle venait de communier dans une splendeur, une beauté, une majesté admirable, tel qu'il était après sa résurrection. Voilà donc là, ces faveurs extraordinaires qu'a reçues Thérèse, en raison de son charisme, évidemment, de mère, des spirituels, d'enseignante. Thérèse renonce à chercher à comprendre le comment de ses visions. Il y a un texte plein d'humour où elle abandonne cette recherche, ce travail aux théologiens. Ils sont bien plus intelligents que moi, ils arriveront bien à comprendre. Sauf qu'ils n'ont pas forcément l'expérience. Et nous voyons combien Thérèse est gratifiée de ses visions en raison de son charisme d'enseignement pour l'Église. Et cela manifeste combien nous avons besoin du Christ de fixer notre regard sur lui, le Fils de Dieu, tel qu'il nous est manifesté dans l'Évangile. Alors, j'en viens à une deuxième étape, de recueillir quelques conseils de la Madre aux pèlerins. J'en ai formulé deux, je ne sais pas par lequel commencer. Regarder le Christ et lire le livre. Et ça va ensemble, évidemment. Il s'agit de lire en regardant le Christ. Le mot d'ordre donné par Thérèse, nous le connaissons par cœur. Hein. Tout ce que je vous demande, c'est de le regarder. Et c'est ce regard qui va faire le fil rouge de l'échange d'amitié. Quelle oraison. Cet échange d'amitié, il est fait avec l'ami par excellence qui est Jésus. Le chemin, c'est lui. Et en même temps, Thérèse dira, il y a bien des sentiers possibles pour cheminer avec lui. Toujours une grande liberté. Fussiez-vous au sommet de la contemplation, ne prenez pas d'autre route. Attachez-vous à Jésus. Et on a déjà entendu parler de, un autre moment de crise dans l'itinéraire de Thérèse, quand elle a été confrontée à la tentation d'un iconoclasme contemplatif sous l'influence de lectures, de traités spirituels qui l'invitaient à laisser de côté le bon Jésus, l'humanité du Christ. Il s'agissait de sentir Dieu aux quatre coins de l'horizon. On a l'impression de lire un texte du New Age d'aujourd'hui, mais c'est du XVIe siècle. Sentir Dieu aux quatre coins de l'horizon. De l'horizon. Au lieu de remplir les quatre coins de notre oraison par le bon Jésus. Et donc Thérèse va rapidement découvrir son erreur et réagir très énergiquement, car il en va de l'incarnation et de notre propre condition charnelle, incarnée. Et finalement, elle dépiste un manque d'humilité, et pour elle, ça, c'est du poison. Alors, il y a deux grands textes, deux chapitres parallèles. Le chapitre 22 du livre de sa vie, chapitre 22, et puis le chapitre 7 des sixièmes demeures. Chapitre 22 de la vie, chapitre 7 des sixièmes demeures, qui concerne la place centrale de l'humanité du Christ. Il s'agit non pas de marcher en l'air, mais de marcher dans le Christ. Et c'est lié à ce que nous sommes, à ce qu'il est lui, ce qu'il est devenu en se faisant chair, et ce que nous sommes. Nos somos ángeles, sino tenemos cuerpo. Nous avons un corps. Et donc nous avons besoin du compagnonnage des saints et des saintes, et nous avons besoin du compagnon véritable qui est le bon Jésus. Nous ne sommes pas des anges, nous avons un corps. Vouloir faire de nous des anges tandis que nous sommes sur terre, surtout quand on y est aussi enfoncé que je l'étais, en vérité c'est absurde. Ça n'a pas de sens. Donc le sens, c'est l'humanité du Christ, le bon Jésus. Et Jésus, pour Thérèse, s'est fait parole et image. Il a investi son imagination, sa mémoire, purifié son cœur. Il me reste quelques minutes, je devine un je ne sais quoi. C'est le grand conseil de Thérèse. Regardez Jésus en lisant le livre. N'entrez pas dans le jardin de la prière. Ne partez pas à l'oraison sans un livre. Il y a de nombreux conseils. La lecture, si courte soit-elle, les aide beaucoup à entrer en recueillement. Je n'osais faire l'oraison sans un livre. Et encore une fois, le livre par excellence, c'est le livre des Saintes Écritures. Alors, il y a un passage que je vous invite à lire qui est très intéressant, où Thérèse donne quelques conseil sur la manière dont elle estime qu'il faut lire les Écritures. En fait, on a la chance de posséder, de sa plume, une sorte de court traité d'herméneutique biblique. Il s'agit du chapitre premier des Pensées sur l'amour de Dieu. Les Pensées sur l'amour de Dieu, en fait, c'est le seul écrit que Thérèse ait rédigé de sa propre initiative, sans répondre à une demande. Et c'est un commentaire très personnel du Cantique des Cantiques, de quelques versets du Cantique. Et au début, donc au chapitre 1er, elle donne quatre jalons sur la façon d'interpréter correctement l'Écriture sainte. Une première clé, c'est la louange. Parce que quelque chose qui peut nous paralyser dans la lecture du livre, c'est le découragement devant l'immensité de ce qu'il y a à découvrir et à explorer. Et ce découragement, bien, paralyse le dynamisme de la recherche. Elle dit, plutôt que de se décourager, « Louez Dieu ». Réjouissons-nous plutôt en songeant que nous avons un Dieu et un Maître si grand qu'une seule de ses paroles renferme certainement mille mystères. La clé de l'Écriture, c'est l'amour. Seul celui qui aime peut comprendre. Et de fait, l'amour donne le courage et le goût pour lire et travailler. Il s'agit de lire par amour et pour apprendre à aimer. Ne lisez pas seul, troisième conseil, mais avec l'Église. Et je lis ce passage qui est étonnant. Elle va commenter, elle dit « Il peut se faire que les paroles dont il s'agit ne s'appliquent pas à ce dont je parle, mais moi je les prends dans ce sens. Pourvu que l'on ne s'écarte pas de ce qu'enseignent l'Église et les saints. Bon, quand même, il y a un repère dogmatique, disons. Hein. Mais, quatrième conseil, pourvu que l'on tienne la main de l'Église, allez-y. Liberté de l'interprétation. Que permet notre Seigneur ? Il permet bien, lorsque nous méditons sur la passion, de nous représenter beaucoup plus de peines et de tourments que les évangélistes n'en rapportent. Pourvu, comme je le disais en commençant, que nous ne soyons pas guidés par la curiosité, la vaine curiosité, mais que nous prenions simplement les lumières que Sa Majesté nous donne. Je suis persuadé qu'il ne trouve pas mauvais que nous cherchions notre joie et nos délices dans ses paroles et dans ses œuvres. C'est ainsi que Thérèse donc, nous invite à lire en regardant. Si nous ouvrons le livre de l'Évangile, en acceptant l'humble médiation des images, c'est pour nous laisser, on pourrait dire, imprimer, nous laisser saisir, imprimer par un livre vivant, par celui qui est l'image. Et d'une telle lecture, on ne sort jamais indemne. En nous, les paroles de Dieu sont des œuvres. Alors, à un moment, il me reste quand même encore 4 minutes. C'est peu. Alors, juste 4 ouvertures, disons. Une première avec saint Thomas d'Aquin. Cette petite phrase assez étonnante. « Ubi amor, ibi oculus ». Ça vient du commentaire des sentences. Le regard se porte là où l'amour tend. Et c'est vrai de l'expérience quotidienne, et c'est vrai du désir qui porte jusque dans la vie éternelle. Je veux voir Dieu. Parfois on chante ce refrain à tue-tête. Mais honnêtement, est-ce que c'est vraiment un désir, une perspective qui nous attire réellement ? De voir Dieu. En quoi est-ce que ça peut être comblant de voir Dieu ? Et la réponse ici de frère Thomas, c'est de nous montrer qu'en réalité, il s'agit de posséder Dieu. Et que la seule façon que nous ayons de posséder ce qui est infini, c'est la connaissance, c'est la contemplation. Et ce désir-là nous entraîne déjà. L'amour oriente notre regard dès ici-bas. Dans le statut viatoris qui est le nôtre, le plus parfait, c'est d'aimer Dieu, bien sûr, de le désirer sans le posséder pleinement, pas encore. Ce désir tend à la possession, et la possession, elle est obtenue par le regard. Donc c'est bien juste de nous inviter dès aujourd'hui à le regarder. Il s'agit de le regarder pour le posséder. On comprend alors le cri de Thérèse enfant et son intérêt pour tout ce qui peut être saisi de lui, du bien-aimé, par le regard intérieur de la foi, soutenu par l'humble médiation des images. Il y aurait toute une belle étude à faire en ouvrant les travaux, les recherches de John Henry Newman, car elle donne une grande importance dans sa psychologie spirituelle à l'image. L'image du Christ qui est finalement le moteur de toute la vie de l'Église et de chacun des fidèles. Alors ça déconcerte un esprit cartésien qui est habitué à des choses distinctes et claires si possible. L'image de Newman, c'est à la fois une idée, mais quelque chose d'intérieur qui est de l'ordre de l'expérience personnelle du Christ, qui est rendu possible grâce à l'Évangile et qui a un dynamisme très profond. Les dernières pages de la grammaire de l'assentiment, où il essaie de comprendre l'adhésion de la foi, ce sont des extraits des Actes des martyrs. Donc je pense que c'est intéressant d'aller voir chez Newman aussi ce rôle de l'image. Chez le père Marie-Eugène, évidemment, il est disciple de la Madre, donc il y a une large part aussi qui est faite à la connaissance vivante et concrète. Pour vivre de l'intimité du Christ, j'ai besoin, dit-il, que toutes nos puissances, depuis les sens jusqu'aux profondeurs de notre intelligence, soient remplies de cette connaissance vivante et concrète de Jésus. C'est dans le chapitre sur les lectures spirituelles. Et puis enfin, chez Paul VI, et nous savons combien le bienheureux Paul VI a voulu renouer, ou en tout cas cultiver les relations entre l'Église et les artistes, il y a un très beau texte, entre autres, une audience générale du 13 janvier 1971, où il parle de ce désir de voir Jésus. Ah, si nous pouvions avoir une image de lui. Puis il reconnaît la limite des images, la béatitude de la foi, tout en terminant par cette affirmation, la psychologie de la foi a besoin de quelques images représentatives. Alors, je conclus. Quel est le rôle des images et de l'image chez Sainte Thérèse d'Avila et chez ses disciples? C'est du côté du sens ultime, puisqu'il s'agit de le voir, c'est-à-dire de le posséder vraiment. Donc on est du côté du but vers lequel le chemin tend. Et puis c'est le sens de l'humble croissance spirituelle, de vivre du Christ ici-bas. Il s'agit, pour reprendre une expression chère au cardinal Newman et aussi au père Marie-Eugène, de réaliser le Christ. Grâce en particulier à la médiation de la lecture de la parole et des images. Et vous voyez comment l'attrait de Thérèse pour les images est d'abord celle du Christ, l'invitation qu'elle nous fait de nous appuyer sur elle, ça ne peut pas être réduit à une expression de la culture de son temps, ni à un simple geste de piété personnelle. Il en va du mystère même de l'incarnation. Et de notre entrée dans ce mystère, la foi chrétienne qui est inséparable de la chair du Verbe, qui se donne à toucher, à contempler et à manger sacramentellement dans l'Eucharistie. Et on peut dire, pour finir, tous les conseils donnés par la Madre, ils ont pour finalité de nous permettre, à notre mesure, selon notre grâce, de devenir nous aussi des Jésus. C'est en fait l'œuvre de l'Esprit Saint.